Radio Okapi. Journal présenté par Grace Hamzati.
Attention, l'épidémie de la variole des singes ou monkeypox frappe le continent africain, particulièrement la République démocratique du Congo, qui compte plus de 15 000 cas potentiels avec plus de 500 décès depuis le début de l'année. Ainsi, l'épidémie est déclarée urgence de santé publique de portée internationale par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Des précisions dans ce journal. Les activités des entreprises minières nuisent aux communautés locales en RDC par diverses maladies. Cette alerte est donnée par 24 étudiants du programme intitulé « École du fleuve Congo ». Après des enquêtes menées dans les différentes communautés pour étudier l'impact négatif de l'exploitation minière, notamment dans les provinces du Lualaba, Okatanga et Tanganyika, ces étudiants en appellent à la responsabilité du gouvernement. Une campagne de sensibilisation des parents qui ont des enfants souffrant de pieds bots se déroule à Kananga, dans la province du Kasaï central. La structure Opwax RDC, en collaboration avec Il Africa de Goma, soigne ces enfants qui sont souvent stigmatisés. Nous en parlons avec notre invité Vincent Semo, psychologue, clinicien et coordonnateur Conciling à Il Africa. À toutes et à tous, bonjour. Santé pour commencer. L'épidémie de monkeypox déclarée urgence de santé publique ce mercredi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Cette alerte du CDC Afrique vise à mobiliser urgemment des ressources nécessaires pour enrayer la propagation de la maladie. Il est dit dans un communiqué dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Des détails avec vous, Kelly Kouté.
L'épidémie de monkeypox touche plusieurs pays africains. On parle de 13 au moins pour le moment, à savoir la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria et l'Afrique du Sud. Actuellement, plus de 500 décès sont signalés sur le continent sur un total de plus de 2800 cas confirmés, principalement en RDC. Les cas suspects sur l'ensemble du continent africain dépassent 17 000, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux deux dernières années. Le directeur général du CDC Afrique, le docteur Jean Kaseya, souligne l'urgence d'une action rapide et décisive pour mobiliser des ressources et agir rapidement et de manière décisive. Pour rappel, le monkeypox est une maladie virale causée par le virus de la variole du singe. Les symptômes courants comprennent une éruption cutanée ou des lésions des muqueuses durant 2 à 4 semaines, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, un manque d'énergie et des ganglions lymphatiques enflés. Le virus peut être transmis aux humains par contact physique avec une personne infectieuse, des matériaux contaminés ou des animaux infectés.
Kelly Stoning Kouté. Dans la foulée, le ministre congolais de la Santé publique affirme qu'à ces jours, presque toutes les provinces de la RDC sont affectées par cette maladie. Dans une communication faite ce mercredi, Dr Roger Kamba parlait de plus de 15 000 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année 2024. On l'écoute.
Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Tchopa, la Mongala, la Tchopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces.
Et pour être complet à ce sujet, sachez que le monkeypox ou la variole des singes a été déclaré aussi ce mercredi une urgence de santé publique de portée internationale par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS dans un communiqué publié par son organisation. La recrudescence des mpox en RDC et dans un nombre croissant en Afrique constitue une urgence de santé publique de portée internationale en vertu du règlement sanitaire international de 2005. l'émergence des nouveaux clades des Mpox, sa propagation rapide dans l'est de la RDC et la déclaration des cas dans plusieurs pays voisins sont très inquiétantes. En plus des épidémies d'autres clades des Mpox en RDC et dans d'autres pays d'Afrique, il est clair qu'une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour arrêter ces épidémies et sauver des vies, déclare le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Nous le disions dans les titres, 24 étudiants du programme intitulé « École du fleuve Congo » interpellent l'État congolais sur la mauvaise exploitation minière. Représentant 12 communautés locales, ils mènent ici à Kinshasa un plaidoyer et une mobilisation en vue de sauver des vies humaines impactées négativement par les activités des entreprises minières. Ils ont parcouru les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Lualaba, Tchopo et Congo central. Diverses maladies dues à la pollution des eaux des rivières, des terres ravies, des forêts détruites, autant d'effets néfastes qui découlent de ces activités. Ainsi, ils demandent au gouvernement de faire respecter les droits des autochtones et les lois du pays par les exploitants miniers. Ils ont organisé une conférence de presse hier pour faire entendre leur voix. On écoute l'un d'eux, Simplice Bambi, au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons mené les enquêtes dans les différentes communautés pour étudier l'impact négatif des activités minières dans les Lualaba, au Katanga, Tanganyika, où on est en train de parler de cuivre, de cobalt, de lithium. Aujourd'hui, nous avons la certitude de confirmer que nos communautés sont en train de souffrir et à travers l'école du fleuve Congo, nous voulons que les choses changent. Pourquoi? Parce que les activités minières, c'est l'État qui a octroyé des permis d'exploitation des différentes entreprises. C'est lui qui devait plaider pour les cas des populations, faire pression aux entreprises de respecter les droits des autochtones. Mais ces mines qu'exploitent les entreprises ont impacté négativement les communautés. Les rivières que la population utilisait aujourd'hui, les mêmes rivières-là ne peuvent plus être utilisées parce que polluées par les différentes entreprises minières. Il y avait des populations qui avaient les espaces pour cultiver les champs. Aujourd'hui, ils n'en ont plus parce que les entreprises ont ravi les terres.
Dans l'actualité aussi, ce sit-in du collectif des jeunes leaders des Mwanda, mardi, au ministère de la Justice à Kinshasa. Il demande au ministre Constant Mutamba de faire accélérer le dossier judiciaire sur la gestion des 10 millions de dollars issus de l'avenant 9 signé entre la RDC et l'entreprise Perenco. Argent destiné au projet de développement du territoire des Mwanda. Ces jeunes estiment que ce montant est mal utilisé. Ils accusent le comité de gestion de ces fonds de détournement. Autre précision avec Nosaya Masiki.
Pour le président du collectif des jeunes leaders de Mwanda, il y a bel et bien des tournements car dans le concret, rien de visible n'est fait sur terrain à Mwanda, Armel Lubadika.
Les communautés locales avaient voulu à ce que cet argent puisse servir en premier en électricité, réhabiliter des routes de desserte agricoles et appuyer la desserte en eau potable. Rien n'a été réalisé. Mais on nous apprend que la structure demande un montant supplémentaire au chef de l'État sous prétexte de pouvoir financer d'autres projets. Le ministre de la Justice doit s'impliquer.
Le ministre Constant Mutamba, qui les a rencontrés, les a rassurés en ces termes.
Je ferai rapport au président de la République et nous prendrons des mesures. Je vais écrire aux responsables qui suivent ces dossiers pour faire accélérer l'instruction que vous dites être déjà en cours au parquet de la Gombe. Soyez calmes, regagnez vos maisons en sachant que la justice va suivre ces dossiers. L'argent que les chefs de l'État a donné pour Mwanda doit servir au développement de Mwanda et non l'achat des parcelles à Kinshasa.
Le comité de gestion des fonds de Mwanda a toujours rejeté ces allégations. Il affirme que cet argent est bien utilisé et que même le contrôle de l'inspection générale de finances le certifie.
Une autre réclamation est celle des candidats du concours de la magistrature concernant leur nomination qui, selon les chronogrammes du Conseil supérieur de la magistrature, publié en février 2023, devrait avoir lieu en avril 2024. Organisé par les CSM, ce concours de 2022 a connu la participation de plus de 35 000 candidats. À l'issue de ce concours, 5 000 candidats avaient été retenus. Faute de moyens, la nomination et l'affectation de ces lauréats devaient se faire en deux tranches, dont 2500 candidats en 2023 et les autres en 2024. Suivez l'un des candidats dans ses propos recueillis par Miradim Fwengi.
Nous, candidats magistrats qui attendons la nomination en 2024, nous sommes là abandonnés à notre triste sort. Parmi nous, il y a des candidats magistrats qui viennent de l'intérieur du pays, qui vivent à Kinshasa dans des conditions inhumaines. Toutes les initiatives que nous avons entreprises n'ont abouti qu'à des échecs. Actuellement, le CSM ne nous reçoit même pas pour nous dire à quel niveau se trouve le processus de notre nomination. Nous demandons au chef de l'État d'avoir un œil un peu plus regardant sur notre situation. 2 ans d'attente, c'est trop. Ça donne l'impression que nous sommes sacrifiés, nous sommes victimes d'une certaine injustice. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est lui-même l'initiateur de ces concours. Il a un mot à dire. Il peut appeler le président du CSM pour en savoir plus. Si jusqu'à septembre, notre situation n'est pas réglée, on va organiser des marches, des manifestations publiques pacifiques. Peut-être cette fois-là, on va se faire entendre parce que ce sont nos droits. Nous réclamons un droit. Nous attendons cette nomination avec beaucoup d'impatience.
Pendant ce temps, l'instruction du dossier en procédure de flagrance au procès des membres de la Force du Progrès de l'UDPS, sitôt commencé ce mercredi, a été suspendue tard dans la soirée. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu a décrété la surséance de l'instruction à la suite d'une exception d'inconstitutionnalité sur l'incompétence supposée du tribunal soulevée par la défense. Il faut attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, déjà saisie, qui devra se prononcer sur cette exception. Selon le parquet de grande instance de Kalamu, il poursuit les combattants de l'UDPS pour association de malfaiteurs et destruction méchante survenue au Palais du Peuple, siège du Parlement, à l'occasion du dépôt des candidatures au bureau définitif du Sénat. Sur 41 prévenus au départ, 5 viennent d'être extirpés du dossier parce que qualifiés des mineurs. Ces prévenus devront être acheminés en détention préventive à la prison centrale de Makala ce jeudi, d'après le parquet. Le mardi, le tribunal a ouvert le procès en identifiant tous les prévenus. Merci de nous recevoir à Bukavu, au sud Kivu, où le gouvernement, les agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires s'engagent à accompagner la mise en œuvre de la transition après le désengagement de la MONUSCO dans cette province. Engagement réaffirmé ce mercredi lors de la clôture de l'atelier des réflexions sur les mécanismes liés à la gestion de la transition. La feuille de route détenant les mécanismes permettant d'assurer une bonne réussite du processus de transition a été validée. Cette feuille de route est composée également de 4 points importants, notamment paix, sécurité et protection des civils, renforcement de l'autorité de l'État, le désarmement des groupes armés et l'opérationnalisation. On écoute l'ambassadeur délégué général du gouvernement pour la liaison avec la MONUSCO, Noël Mbemba, dans cet extrait que nous propose Rachel Kessembango.
Seulement, on ne va pas se limiter là. Si vous vous dites nous avons travaillé et que c'est fini, vous avez vu qu'il y a d'autres étapes. À ce moment-là, on aura le goût d'un travail inachevé. Que chacun s'implique de la même manière on s'est impliqué les premiers jours. Que ce soit pour la mobilisation de fonds, puisque ce n'est pas fini. Et puis, on doit encore se mobiliser pour le suivi. Ce n'est pas un travail qui est en train de se faire dans un petit bureau. C'est un travail qui se fait au grand jour. C'est-à-dire qu'on est en train de le faire publiquement. C'est une façon de dire que tout ce qui sera fait ici doit être contrôlé, vérifié par tout un chacun. Et si vous trouvez dans un coin quelque part que le gouvernement national ou bien le gouvernement provincial essaie un peu de somnoler, c'est de votre responsabilité de sonner l'alarme. Et là, je m'adresse surtout à la société civile. Donc, allez jusqu'au bout pour que le Sud Kivu retrouve ce que nous avons prévu dans notre texte.
On enchaîne avec Mbandaka, où la tension s'observe ces jours à l'agence First Bank. Nous sommes dans la province de l'Équateur. C'est depuis le lancement de la paie des fonctionnaires pour le mois de juillet dernier. Plusieurs clients ont déserté leurs bureaux et peinent jusque-là à toucher leur salaire du mois de juillet. La pagaille est visible chaque matin à l'entrée principale de la banque, où se bousculent d'une part militaires, policiers et civils, et de l'autre les clients face aux agents de sécurité. Un reportage signé Paul-Richard Malingela.
L'ambiance est la même chaque matin, indique des témoins. Certains sont arrivés à l'aube pour se placer en ordre utile dans la file d'attente. Toutefois, le public reste entassé sans ménagement, ni chaise, ni lieu d'aisance. Peu importe les personnes âgées, les malades ou les statuts sociaux, la sécurité jette tous dans une sorte de panier de crabes. Seul qui compte la loi des biceps, soit la loi des connaissances avec les agents de la banque. Ainsi, certains clients ont carrément déserté leur service et accompli 2 à 3 semaines sans être payé. Mais la situation s'est empirée selon nos sources, puisque la banque impose qu'il faut désormais disposer d'un salaire équivalent à $500 pour toucher au guichet, sinon détenir une carte de distributeur automatique d'argent.
Comment expliquer qu'on peut conditionner l'argent d'un agent de l'État, un milieu quel? Bon, ceux qui ont 200, 400 quelques ne peuvent pas entrer pour toucher leur argent. Avec qui? Carte et robot, ça complique.
Mais les opérations de délivrance de la dite carte, après retenue à la source de 17 000 francs, clients congolais se heurtent à la grande masse des clients et à la mauvaise connexion de la banque. D'ailleurs, la veille de notre passage, un inspecteur d'enseignement a piqué une crise d'hypertension à cause d'étouffement. Approché, le gérant de la First Bank Bandaka s'est refusé à toute déclaration sans autorisation de sa hiérarchie. Bandaka pour Chamanenge, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Ce mercredi, une délégation de paramilitaires des forces de soutien rapide dirigée par Mohamed Hamdan Daglo est arrivée à Genève pour des discussions sur un cessez-le-feu au Soudan. L'armée régulière soudanaise continue de son côté à bouder ces nouvelles négociations, même si les États-Unis semblent déterminés à aller de l'avant.
L'invité.
Notre invité est Vincent Semon, psychologue clinicien et coordonnateur Conciling à Île Africa. Il pilote une campagne de sensibilisation des parents ayant des enfants avec les pieds beaux à Kananga. La structure Opwax RDC, en partenariat avec l'hôpital Île Africa de Goma, s'engage à réparer cette malformation. Il explique que le souci est de soigner les enfants stigmatisés parce qu'ils marchent sur le dos de leurs pieds à cause de cette malformation. Vincent Semon s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Vincent Semou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
À Kananga, pour une campagne de sensibilisation pour les traitements d'une malformation chez les enfants, le pied beau, en quoi consiste ce travail?
Nous sommes très heureux de nous retrouver à Kananga. C'est pour une grande activité de partenariat avec l'hôpital général de référence de Lukonga dans le cadre des traitements des enfants qui naissent avec la malformation des pieds beaux. Parce que dans cette partie du centre de la RDC, nous n'avions pas un partenariat. Alors, nous sommes très heureux de voir que notre partenariat marche parce que nous avons signé déjà de part et d'autre les contrats de partenariat avec cette structure.
Le pied beau, quels sont les causes de cette malformation et pourquoi le traitement de cette malformation vous intéresse?
Le pied beau, déjà, c'est une malformation congénitale hein, qui fait que, au lieu que l'enfant puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur le dos de son pied. Et c'est très douloureux. Nous sommes très intéressés de soigner cette malformation parce que les enfants qui grandissent avec cette malformation sont stigmatisés dans la communauté. Ils ont aussi la difficulté de marcher. Et il y a beaucoup de conséquences si une fois la malformation n'est pas soignée. Ce qui fait à ce que nous puissions plus nous pencher à ça pour que tous les enfants qui naissent puissent grandir en marchant normalement sans cette malformation des pieds beaux. Parce que déjà en RDC, on constate que 5000 cas d'enfants naissent avec la malformation des pieds beaux. Et déjà avec notre organisation Hope Walks en partenariat avec Île Africa, nous réussissons à soigner 1000 cas à peu près. Pour dire qu'il y a 4000 enfants qui grandissent avec cette malformation. Et voyez-vous, c'est déjà un problème parce que même dans la vie adulte, lorsqu'un jeune garçon veut se marier, lorsqu'une jeune fille veut être mariée avec cette malformation, ça constitue un blocage. Même sur le plan professionnel, il y a certains qui n'acceptent pas d'engager des personnes qui présentent les malformations.
Pour Kananga, ce qui vous amène, ce sont les données qui démontrent qu'il y a des enfants qui ont cette malformation ou vous êtes d'abord venu en prospection pour après commencer le traitement?
Avant de venir ici, nous avons été en contact avec l'équipe locale qui nous a déjà donné des statistiques. Et ça montre estimativement que Kananga ne peut pas manquer plus de 500 qui peuvent naître dans cette province des Kasaï centrales. Alors, avec cette estimation, nous disons c'est très important de venir au secours de cette population parce que les données montrent que c'est plus, entre guillemets, les peuples qui ont des revenus faibles, hein, qui sont plus exposés. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec cette prise en charge gratuite qui est assurée par Hope Walks et Île Africa pour apporter un sourire, un espoir de guérison à ces enfants qui naissent avec les pieds beaux.
Pieds beaux, comment se fait le traitement et c'est quoi la durée?
Merci beaucoup pour cette question importante. La prise en charge des pieds beaux s'est faite en utilisant la méthode Ponseti. La méthode Ponseti est utilisée en deux étapes principales, dont la première étape, c'est une étape de correction où nous utilisons les plâtres, mais aussi nous faisons une petite intervention chirurgicale dénommée la ténotomie. Et la deuxième étape très importante, c'est une étape de maintien où nous utilisons les attelles. Ce sont des souliers spéciaux que les enfants portent pour maintenir la correction qu'ils ont obtenue en premier avec les plâtres.
Le coût pour le traitement de cette maladie permet pas à certaines familles de le faire. Alors quel message vous passez à toutes les familles qui ont des enfants qui ont cette malformation?
Les messages que nous lançons à toute la communauté de Kananga, la communauté des Kasaï centrales, c'est que les pieds beaux est soigné et la prise en charge est vraiment gratuite. Alors, nous voudrions demander à toute la communauté que, une fois qu'ils rencontrent un cas de pied bot, qu'ils ne puissent pas hésiter de l'orienter ici au sein de l'hôpital général de référence de Lukonga pour une prise en charge efficace et gratuite. Et c'est pour, effectivement, la tranche d'âge des enfants dont l'âge varie entre 0 et 2 ans. Parce que pour cela, la méthode Ponseti est efficace. Dépasser 2 ans, en tout cas, la méthode, on peut l'appliquer, mais les résultats n'est pas escompté comme au tout petit. C'est pourquoi nous encourageons les parents de ne pas hésiter de saisir cette opportunité, surtout à partir du mois d'octobre 2024. Les activités seront lancées et là, l'hôpital général des références de Lukonga, en tout cas, va recevoir tous ces enfants-là gratuitement.
Docteur Vincent Simon, nous vous disons merci.
Notre invité était interrogé par François Kadima. Il est 7h20 ici à Kinshasa. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Kapi, ce journal touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe, Martin Sebujangwe, Pelé Kipela Mondo, Pierre Diassinois et Grace Amzati, nous vous disons merci.